Le WAMcast. Toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM.
Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 47e numéro, on va parler d'un sujet un peu inhabituel dans ce podcast, puisqu'on va parler SEO et RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Avec moi aujourd'hui pour parler de ce vaste et large sujet, alors on a un habitué des WAMcast, Mathieu Doubé, manager de l'équipe SEO de chez WAM. Salut Mathieu.
Salut.
Et une nouvelle voix autour de cette table dans ce podcast, Bruno Cascales, chef de projet SEO chez WAM. Salut Bruno.
Salut.
Messieurs, je vais commencer un peu frontalement, vous m'excusez, mais je dois avouer que là, comme ça, le sujet de la RSE, ça me paraît un petit peu éloigné du SEO de prime abord. Est-ce que vous pouvez me redéfinir un petit peu les contours de ce que ça concerne exactement ?
Ouais, c'est vrai que de base, on ne va pas forcément relier le sujet de la visibilité sur Internet avec la RSE. En tout cas, c'était notre cas quand on a commencé à réfléchir au sujet. Et peut-être pour commencer, je peux clarifier on va dire la RSE, ce que c'est. Et pour ça, je vais citer le site du ministère de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
Monsieur Le Maire.
qui nous donne la définition. Globalement, la RSE, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. En d'autres termes, c'est en gros la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Et en gros, une entreprise qui pratique la RSE, elle va chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable.
Ok, donc ça c'est la RSE dans ses grandes lignes, on va dire. Mais pourquoi on en parle dans ce WAMcast, Mathieu ? Quel est le lien avec le SEO ? Dis-moi tout.
Très bonne question.
En fait, merci.
En fait, c'est un sujet qui pose de plus en plus de questions chez nous. Chez WAM, on nous en parle assez régulièrement, que ce soit nous en tant qu'entreprise ou avec nos clients qui veulent savoir ce qu'on peut leur amener sur le sujet. Et dans le cadre d'appels d'offres, par exemple, quand on y répond, on est régulièrement questionné sur le sujet. Comme on a des prestations de services avec nos clients, ils ont besoin pour leur propre bilan RSE d'avoir des informations sur ce qui se passe chez nous et à quel point en fait notre activité elle va impliquer ou non des choses à leur niveau.
D'accord. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur le lien entre SEO et RSE un petit peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais qu'on dézoome un peu pour nos auditeurs avec ce qui arrive le plus souvent sur le tapis quand on parle de RSE, finalement, c'est le volet environnement. Alors, est-ce qu'on sait si le numérique représente une grosse partie des émissions de carbone ? Par exemple, Bruno, si on le compare avec d'autres activités, alors je sais pas, comme l'industrie ou le transport, par exemple.
Alors, je vais essayer de te répondre avec les informations que j'ai à ma disposition. Je ne suis pas du tout un expert RSE et tout ce que je peux te remonter aujourd'hui, c'est issu d'études disponibles publiquement sur lesquelles on a basé nos recherches. L'idée du WAMcast aujourd'hui, c'est de s'interroger sur le sujet et de partager notre réflexion pour voir ce qui est faisable à notre échelle. Et si je peux spoiler, on a encore plein de questions.
Ben ça tombe bien, j'en ai moi aussi.
Vraiment
justement.
plein de questions.
Alors, si ça te va, on va parler de théorie au début de ce WAMcast et on va rentrer dans du concret dans la seconde partie.
Eh ben parfait, on va faire ça alors. Tu parlais d'échelle. Justement, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner pour se rendre un petit peu mieux compte du sujet justement ?
Alors oui, ce sont essentiellement les chiffres de l'ADEME qui nous dit que le numérique représente environ 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
D'accord.
À titre d'info, en France, c'est loin derrière le transport, 29%, ou l'alimentation, 28%. Mais ce n'est pas rien. Maintenant, dans ces 3 à 4% que représente le numérique, il faut distinguer plusieurs parties. Il y a la production du matériel, son usage et sa distribution.
D'accord.
La production, c'est 78%. On parle ici de la fabrication des ordinateurs, des téléphones, des serveurs, etc. C'est le gros morceau. Donc.
Ouais.
Ensuite, l'usage, c'est 21%. C'est grosso modo tout ce qu'on fait avec nos ordinateurs quand on travaille ou pour nos loisirs au quotidien. Et c'est ici qu'on va pouvoir agir à notre niveau dans notre activité du SEO.
D'accord.
Et la dernière partie, il manque 1%, c'est la distribution. De ce qu'on a compris, c'est tout ce qui concerne les transports, l'acheminement du matériel et ça représente 1%.
Un tout petit pourcent, d'accord.
Donc pour ceux qui nous intéressent, le site impactco2.fr propose un simulateur qui permet d'estimer au regard de nos usages quel est notre équivalent de CO2 produit. Une étude de l'ADEME en 2023, qui est disponible sur le site de l'ARCEP, est également intéressante si on s'intéresse à ces sujets, d'autant qu'on sait que ces émissions de gaz à effet de serre liées au numérique pourraient augmenter de manière significative. On parle de 60% d'ici 2040.
D'accord.
Et c'est pas rien. Et ça nous permettrait de réduire notre empreinte carbone de manière significative. Ça donne une idée de l'ampleur du sujet. On vous mettra les liens dans l'article sur le site de WAM.
Ça sera mis en dessous de ce WAMcast. Donc, pour reprendre ce que tu nous disais, on peut agir en partie sur 21% des 3 à 4% que représentent les émissions de gaz à effet de serre, en gros. Pareil, encore un peu frontalement, mais est-ce que vous auriez des chiffres un tout petit peu plus précis par hasard ?
Ouais, et encore, tu vois, les 21%, c'est pas que le SI ou quoi ? C'est
oui, en plus.
L'usage du numérique, c'est qu'une
petite. Vu mon niveau en maths, c'est déjà un miracle que j'ai pu, j'ai pu calculer ça.
On va pas forcément avoir des chiffres dédiés au SEO, c'est un sujet qui est vraiment hyper spécifique dans l'ensemble du numérique, et du coup, on n'a pas forcément de chiffres ou d'études qui sont spécifiques à ça. Par contre, on sait que si on veut préciser un peu les choses sur les chiffres de l'ADEME, un Français, à l'année, il pèse à peu près 10 tonnes d'équivalent CO2 au niveau de toute sa consommation dans l'ensemble. Et du coup, la consommation du digital pour un Français, c'est juste 0,16 tonnes. Ça fait quand même 160
kilos.
Ouais, c'est quand même déjà pas mal.
Mais
c'est pas tant que ça, on va dire, dans le global.
Mais d'ailleurs, c'est un hasard le plus total. Hier soir, j'ai participé à un atelier d'automne. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
C'est un atelier collaboratif qui nous permet d'explorer les pistes pour réduire notre empreinte carbone. Et en fait, d'automne, c'est l'objectif par an et par habitant à atteindre d'ici 2050 pour maintenir le réchauffement planétaire sous les 2 degrés.
D'accord.
Ce sont les objectifs qui ont été posés lors de la COP21 qui a eu lieu à Paris en 2015. Donc, de 10 tonnes à 2 tonnes, il y a un gros gap à combler.
Il y a du boulot, effectivement.
Alors, évidemment, ça passe par des actions sur les modes de transport, sur l'alimentation, sur les logements, mais aussi sur nos usages du numérique. Et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser un petit peu plus, je vous conseille de visiter le site d'automne.org.
D'accord. Mathieu ?
Ouais. Et en fait, si tu veux revenir sur des chiffres qui sont peut-être un tout petit peu plus proches du SEO, y a typiquement un chiffre qui est intéressant, c'est le physicien de Harvard qui nous a mentionné ça dans une étude qui date un peu, l'article du Monde qui en parle, c'était 2009. Donc, tu vois, c'est quand même assez vieux, ils ont peut-être fait des évolutions depuis, mais globalement, la référence, c'était 7 grammes de CO2 émis dès qu'il y a une recherche qui est faite sur Google.
D'accord.
Donc quand tu sais le nombre de recherches qu'il y a tous les ans, ça commence à causer, à faire quelques kilos, quelques tonnes.
Surtout depuis 2009.
Voilà,
quelques-unes, effectivement.
Et globalement, cette base-là nous donne quand même matière à réflexion. On sait que si nous, on travaille bien nos stratégies, notre fonctionnement chez nos clients pour avoir des résultats concrets, l'idée, c'est d'optimiser l'expérience de recherche des internautes sur Google. Et en gros, moins on induit de la génération de requêtes en facilitant les parcours de recherche des internautes,
moins
il y a de CO2. Ouais. Et à l'inverse, forcément, plus c'est compliqué et moins on arrive à placer des sites pertinent sur les recherches des internautes, plus on va avoir de recherches d'internautes et qui vont générer de la consommation d'énergie et du CO2 du coup indirectement. Et du coup, charge à nous en fait de bien faire notre boulot, de rendre les sites visibles sur les bonnes requêtes au bon moment pour que tout ça fonctionne bien en fait.
Tu vois. Oui, en sachant qu'une requête Google, ça induit le plus souvent un clic sur une page web, donc de la consommation d'énergie pour qu'un serveur réponde.
Oui.
Mais finalement, c'est plus que ça en réalité. Non
ben oui, en fait, alors toutes les requêtes en soi aboutissent pas à un clic.
Oui.
Mais il y en a quand même une grande partie qui génère des clics vers des pages web. Et effectivement, derrière, le chargement d'une page web, ça peut varier un peu. On a trouvé pas mal de sources qui donnent des chiffres un peu différents. Mais en gros, on va dire c'est entre 1 et 10 grammes de CO2 qui peuvent être émis. Ça va vraiment forcément dépendre de ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur d'une page web. Plus la page elle va être lourde, plus ça va être consommateur d'énergie. Et la manière dont elle est conçue, évidemment. Mais globalement, c'est quand même assez conséquent. Et pour nous, l'idée, du coup, en termes de SEO, ça va être de faire diminuer le poids des pages pour essayer de limiter... on fait ça principalement pour avoir des meilleurs résultats SEO pour nos clients, évidemment. Mais ça va indirectement lier la partie RSE, environnement, à cette action, en fait. Et on sait aussi qu'effectivement, ces dernières années, il y a un poids moyen d'une page web qui augmente fortement. Les pages sont de plus en plus alimentées en images, en vidéos, etc. Et donc, ça consomme de plus en plus d'énergie. C'est là qu'on va agir. Bruno en reparlera un petit peu après au niveau de l'optimisation du temps de chargement et son lien avec les RSE un peu après. Mais c'est clairement un sujet pour nous.
Ouais. Ok, donc c'est là que nous, on a un rôle à jouer pour nos clients. C'est vraiment ici qu'on fait le pont le plus concret entre RSE et SEO.
C'est une partie du sujet, ouais. Il n'y a pas que le sujet environnemental sur lequel on peut jouer, mais on en reparlera un peu après avec Bruno pour cette partie sociétale. Dans tous les cas, on parlait d'ordre de grandeur, on voit bien qu'ici on a un impact limité, parce que le SEO c'est loin d'être la majeure partie des usages du numérique. Néanmoins, en fait, on peut faire des choses à notre échelle pour aller dans le bon sens, et c'est ça qu'il faut essayer de creuser en fait, et qu'on va creuser dans le webcast.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce champ des possibles, sur quoi on peut agir concrètement, Bruno ?
Oui, bien sûr. Si je résume, l'idée, c'est d'agir à notre échelle sur l'aspect environnemental en limitant la quantité de données qu'on fait transiter sur le web avec nos usages quotidiens. Et ça, ça commence dès la stratégie de visibilité. Depuis plusieurs années, pour être visible sur le web, on sait qu'il faut générer des pages et du contenu, le contenu qui va avec. En fait, il faut traiter une thématique de manière la plus complète possible pour se rendre expert aux yeux de Google.
Et c'est là que l'ensemble du processus induit une consommation d'énergie et qu'on peut agir, donc.
Oui, car pour être visible sur ce qu'on appelle la longue traîne, donc ce sont toutes ces requêtes assez longues et assez précises, il faut multiplier les contenus pour avoir les pages d'entrée sur un site qui répondent à ces différentes questions. Il faut donc, dans une logique d'économie d'énergie, essayer autant que possible d'adopter une forme de sobriété éditoriale.
Et ça me rappelle un ancien Wamcast, ça d'ailleurs.
Ouais, c'est en fait ce que dit Bruno, ça fait complètement lien avec le Wamcast 37, si je dis pas de bêtises.
C'est même encore plus précis que moi.
Ouais, je me suis informé avant. C'est sur le content, en fait, dont on a déjà parlé, effectivement. Je vous invite à...
Ah oui, allez écouter allez le écouter. Wamcast sur le slow content, fait. Absolument.
C'est ça.
En fait, l'idée, 37, c'est... Le 37, en
fait. L'idée, c'est de produire moins mais mieux pour exploiter les choses réalisées au maximum. On crée ainsi moins de pages, on essaye de favoriser, de maximiser l'impact de ce qu'on fait et d'optimiser la consommation d'énergie passée qu'on a pu avoir. Et le principe, c'est que plus on va essayer d'axer notre stratégie sur cet angle-là, moins on va développer la consommation d'énergie autour de la création du contenu pour répondre à cette fameuse longue traîne dont parlait Bruno. Globalement, on en reparle un peu après, mais ça veut dire moins de pages HTML à crawler pour Google, donc moins de ressources potentielles à déployer pour détecter tous les nouveaux contenus sur un site web. Les serveurs, ils vont être moins sollicités. Encore qu'il faut faire attention à la manière dont on crée ces pages et aux technologies qu'on utilise, parce que si on utilise beaucoup de JavaScript et qu'on le fait mal, globalement, Google va devoir faire plus d'efforts pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des pages. Mais c'est des choses qu'on va pouvoir travailler, en fait. Ouais.
Ok, donc là, je sens quand même qu'on se dirige vers un Wamcast avec... pas mal de ça dépend.
Ouais,
alors,
ça dépend.
C'est souvent comme ça en SEO. Hein. Depuis le temps que je fais des webcasts, je commence à avoir l'habitude, j'allais dire avec vous, mais même avec toi, d'ailleurs, Mathieu. Donc ça dépend.
Ça dépend souvent, ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. De base, dans le SEO, les porte-parole te répondront quasiment tout le temps « ça dépend » quand tu leur poses une question. Mais nous, c'est pareil, il y a tellement de facteurs qui peuvent influer sur une recommandation, on ne peut pas te répondre autre chose. Quoi.
Mais ça dépend. C'est ça. Plus sérieusement, tout à l'heure, tu parlais du webcast sur le slow content, hein, donc le 37. Mmh. Et je me souviens que donc, Nicolas Vieuloux, donc, directeur associé chez WAMRP, nous expliquait dans ce podcast que les relations presse couplées à une stratégie de slow content pouvait être un allié puissant. C'est quelque chose qui peut aussi jouer pour aider à réduire la consommation d'énergie, tout ça.
Ben, indirectement, je pense que oui, parce que le pouvoir magique des relations presse, c'est que ça génère des mentions de marque. Ça peut aussi générer des liens quand ça marche bien et que les journalistes mettent le lien concrètement dans leur article qui va parler d'une marque. Et en fait, tout ça va rendre un nom de domaine plus autoritaire sur une thématique donnée. Du coup, s'il est plus autoritaire, il se positionne mieux avec son existant et ça nécessite moins d'efforts en on-site sur la production de nouveaux contenus, de nouveaux sujets. Donc, c'est des choses qui vont indirectement générer un intérêt pour la RSE. De plus, quand on parle de mentions et de relations presse, ça nous amène assez rapidement vers l'intelligence artificielle et tous les progrès récents qu'ils ont pu faire au niveau de la prise en compte des articles de presse. Et on sait que globalement, ils ont été entraînés historiquement sur tous les contenus, on va dire, qui sont un peu disponibles à gauche et à droite sur Internet. Et on sait typiquement qu'ils sont allés piocher dans les articles de médias. OpenAI, il s'est très largement servi dans les contenus qui ont été publiés sur Le Monde ou d'autres grands médias. Et tout ça, c'est pour devenir plus pertinent. Donc il y a un vrai travail qui est fait indirectement par les RP pour faciliter l'apprentissage de la machine au niveau de l'entraînement des grands modèles de langage. Quoi.
Et GPT continue de s'en servir comme source d'ailleurs pour ses réponses.
Ouais, ben là en fait, alors c'est pas du temps réel, on va dire, pour un GPT, mais tu prends le Gemini par exemple, il va forcément te sortir des choses qui sont indexées par Google et qui sont assez récentes en l'occurrence. Quoi. Donc on va dire ça dépend de la techno, encore une fois. Mais ouais, en fait, on peut clairement faire le lien là-dessus. Et si on fait le parallèle avec le fait qu'un chargement de page, il induit la création d'un contenu, son stockage, son crawl par Google, son indexation par Google et derrière sa diffusion, l'idée d'avoir des assistants comme Copilot, ChatGPT, Gemini dont je parlais, qui vont nous donner des réponses directement, ça peut induire une réduction de la consommation d'énergie. S'il ne te liste pas plein de sites web, que tu ne cliques pas dessus, finalement tu ne vas pas sur le site, il t'a donné la réponse, donc tu peux presque arrêter ton parcours.
T'enlèves une partie des opérations que tu as citées. Quoi.
Exactement, ouais. Alors, on va toujours aller chercher de l'information à gauche, à droite, au global, où on va vouloir passer à l'action quand on veut acheter quelque chose, se rendre sur un site web. Mais peut-être qu'une partie de l'informationnel va disparaître parce que tu auras déjà eu réponse à tes questions dans la réponse d'un assistant. Et là, il y a une économie qui peut exister. Maintenant, il y a quand même un critère à prendre en compte, une information. Et là, je vais faire référence à un article de Wired qui nous dit, c'est Martin Bouchard qui dit ça. En gros, c'est le cofondateur de Qscale, une société de centre de données au Canada, qui nous dit qu'en gros, il y a 4 à 5 fois plus de calculs nécessaires par recherche sur les assistants comme un GPT que quand on fait une recherche Google. Donc la consommation d'énergie derrière, elle est probablement plus élevée aussi. Donc, tu vois, il y a un bémol, tu vas peut-être avoir des opérations en moins dans ton parcours, mais en même temps, peut-être que ton parcours raccourci, il a généré plus de consommation d'énergie pour te répondre. Donc c'est vite compliqué en fait de savoir ce qui est le mieux, tu vois.
Et donc là, on voit vite que ça se complique pour savoir ce qui est le mieux finalement.
Tout à fait. On sort vite en fait à ce qui est accessible et ce que veulent bien nous communiquer les grandes entreprises du secteur. On peut quand même saluer l'effort de transparence de certains. Je pense à Google qui nous donne des informations sur l'équivalent carbone qu'on consomme dans une suite Google Workspace. C'est notre cas par exemple chez WAM. On a dans la partie administration de l'outil une petite section qui nous dit vous avez consommé tant de kilos de CO2 avec l'activité que vous avez eue dans vos réunions, vos visios, l'échange de mails que vous avez, etc. quoi.
C'est vrai, ils communiquent pas mal de leur côté, notamment sur leur site sustainability.google.com. Désolé pour les anglophiles.
On a l'habitude de massacrer l'anglais, t'inquiète pas.
Ok. On peut en penser ce qu'on veut, remarque. Hein. On peut y voir du marketing, voire du greenwashing, mais on peut quand même constater qu'ils communiquent et font des efforts qui vont dans le bon sens. C'est pas vraiment... pas vraiment le cas partout, notamment chez tous les géants du web.
Ouais. Pour avoir fait pas mal de recherches là, pour préparer le WAMcast, je peux dire que ce n'est pas le cas partout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui manquent. Ouais.
Donc déjà, on peut se dire que pour commencer, il faut se poser des questions dès qu'on fait le choix de sa stratégie de visibilité. Voilà, se dire que ça ne sera pas neutre côté consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, Bruno?
Oui, et pour moi, ça se situe... au niveau de la stratégie, on est en 2024, le web se fragmente en différents écosystèmes et on voit qu'ils ont tous tendance à nous forcer à utiliser leur propre plateforme pour diffuser nos contenus. C'est-à-dire qu'il faut publier le contenu en natif sur la plateforme pour qu'il soit le plus visible. Si on prend l'exemple de LinkedIn, si on met un lien vers un article vers notre site, plutôt que le publier directement sur LinkedIn, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Et ici, je parle aussi de Google et de tous ces multiples services. Vous connaissez YouTube, Google Shopping, Discover, Google Business Profile et demain Gemini. On peut aussi parler de Facebook qui a annoncé récemment sa volonté de se déployer avec son LLM Llama sur Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram. On a la même chose sur Microsoft qui dispose déjà de Windows historiquement, mais qui a aussi avec OpenAI, GPT, Bing Chat, la suite Office 365, ils vont tous accueillir Copilot sur ces différents outils.
En fait, ici, ce qu'il faut se poser comme question, on va dire peut-être à terme, c'est est-ce que j'ai encore besoin d'un site web ou est-ce qu'il me faut juste, et là je vais simplifier, un tunnel de vente, un espace qui va se pluguer à tous ces différents écosystèmes. Je dis bien à terme quand même.
Oui, mais tu anticipes quand même pas mal les prochaines années là quand même.
Ouais, effectivement, j'anticipe clairement, parce qu'une marque, elle va toujours avoir besoin de maîtriser le message qu'elle diffuse, maîtriser son image, et du coup être complètement dépendante de tous les écosystèmes, ça risque d'être un peu compliqué pour eux, mais c'est clairement quelque chose qui va exister à terme. Ouais.
Bruno ?
Oui, pour une petite entreprise, il y a fort à parier que les sites web demain vont être à repenser en fonction de l'évolution des usages des internautes et notamment de l'adoption de ces fameux copilotes.
En tout cas, pour revenir à nos moutons sur la RSE, encore une fois ici, en fonction de ce qui est décidé en amont, donc la stratégie, il y a clairement une empreinte carbone qui en découle. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de travailler et quand on décide de choses, avoir en tête, ok, bah, si je fais ça, ça va induire potentiellement plus de consommation d'énergie parce que je vais déployer des milliers et des milliers de contenus. Quoi. Ouais.
Bon, messieurs, on vient d'aborder un sacré morceau ensemble, hein, déjà. Je trouve quand même que ça manque un petit peu de concret pour nos auditeurs qui ont probablement un site web à gérer. Alors, désolé Mathieu, malgré ce que tu as dit, je pense qu'ils n'ont pas forcément pour projet de l'arrêter tout de suite. Hein,
non.
Mais, n'empêche, je pense qu'ils aimeraient bien savoir concrètement quoi faire pour que leurs prestataires SEO participent aussi à la réduction de leur empreinte carbone. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme action, par exemple, pour réduire le poids d'une page, Bruno ?
Alors, tu veux du concret, Kevin ?
Je veux du concret.
Je vais essayer de te donner quelques pistes. Il faut peut-être commencer par rappeler aux auditeurs ce qui se passe quand on clique sur un lien pour afficher une page web. Le navigateur, il va faire des requêtes au serveur pour demander toutes les ressources nécessaires pour afficher la page. Donc, il y aura bien sûr le code HTML, il y aura les images, des fichiers vidéo éventuellement, et aussi tous ces petits fichiers qu'on ne voit pas forcément, les fichiers CSS qui permettent la mise en forme et les fichiers JavaScript qui rendent les pages un petit peu plus dynamiques. Donc, si on réfléchit aux différents leviers pour diminuer le poids des ressources, on peut commencer par ce qui pèse le plus lourd dans une page web, et ce sont les images. Donc, l'idée, c'est de réduire la résolution des images pour s'adapter à l'écran des internautes. Donc, pour être très concret, cela ne sert à rien de charger une image en 4000 par 3000 pixels si c'est pour, au final, l'afficher au format d'une vignette.
Oui.
Alors, ça peut paraître très caricatural, mais je pense qu'on a tous vu ce genre de pratique à un moment donné.
Je l'ai vu.
Et à part la résolution des images, est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte ?
Oui, il faut également s'attaquer à la partie compression. On connaît tous le format JPEG, c'est un exemple de format d'image compressée. Et quand on enregistre une image, on peut définir son taux de compression. Pour vous donner un ordre de grandeur, on peut dire qu'une image ne devrait pas dépasser environ 100 kilooctets.
D'accord.
Ouais. Et pour rester sur le sujet des images, limiter le poids d'une page web, on peut charger uniquement celles qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, qui s'affichent au premier écran, on va dire. Toutes les autres, on peut uniquement les charger si l'internaute y scroll. Tu vois, t'es pas obligé de le faire en anticipation.
Ouais.
S'il le fait pas, bah, t'as chargé quelque chose pour rien. C'est ce qu'on appelle le lazy loading. Pendant longtemps, c'était réalisé avec du JavaScript. Aujourd'hui, en HTML, tu peux le paramétrer assez facilement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant de mettre en place pour le coup.
Donc le chargement différent.
Ouais, ouais.
C'est ça. Et il n'y a pas que les images qu'on peut compresser. Ça concerne tous les fichiers, le HTML, le JavaScript ou le CSS. Sans rentrer dans les détails trop techniques, sachez qu'il existe plusieurs formats de compression. GZIP est historiquement celui qui était le plus utilisé, mais on peut aussi citer Brotli, qui est celui qui permet le meilleur taux de compression.
D'accord.
On peut également minifier ces fichiers, c'est-à-dire réduire leur taille en supprimant tous ces caractères et espaces inutiles, toujours dans le même but de réduire la taille des fichiers.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à savoir encore ?
Oui, un autre levier qu'on pourrait envisager pour économiser toujours les ressources, c'est de les mettre en mémoire dans le navigateur. On parle de mise en cache, c'est-à-dire quand une ressource a déjà été téléchargée une première fois par le navigateur, elle est stockée dans la mémoire, et il n'a pas besoin de la télécharger une nouvelle fois pour afficher une nouvelle page.
C'est typiquement, Bruno, il parlait du CSS tout à l'heure, les fichiers qui gèrent toute la partie mise en forme, les couleurs, police de caractère, etc. C'est des choses qu'on peut mettre en cache très facilement. Quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de fichiers CSS, une bonne pratique consiste également à proposer plutôt des petits fichiers qui contiennent le code spécifique à un type de page plutôt qu'un seul gros fichier qui va servir pour tout le site.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires à ce niveau qu'on peut donner, voilà, d'autres conseils ?
Oui, en plus de compresser les ressources, on va également pouvoir créer des pages web plutôt épurées. On va éviter au maximum toutes les animations, les carrousels par exemple. Bon, d'ailleurs, cette liste est loin d'être exhaustive. Hein. On vous donne ici quelques pistes et quelques leviers. On pourrait probablement faire un webcast spécifique sur ce sujet.
Il lance des pistes, hein, peut-être. On note. On note par rapport à ce webcast.
Le point important, si on doit retenir quelque chose, c'est qu'en réduisant le poids des pages, vous réalisez en fait plusieurs objectifs. D'abord, vous réduisez l'empreinte carbone de votre site, mais vous améliorez également votre SEO. Et les auditeurs fidèles de ce podcast le savent probablement, mais je le reprécise, le temps de chargement des pages, c'est un critère officiel dans l'algorithme de Google.
En gros, pour simplifier cette partie pertinence pour le SEO pur, un site qui est qualifié de léger, dont les pages se chargent rapidement, on va dire ça comme ça, il aura de meilleures chances de bien se référencer.
Donc là, on vient de parler de réduire le poids des ressources. Est-ce que c'est le seul levier d'action ?
Non, effectivement, on peut faire. On peut faire d'autres choses. Ça se limite pas forcément juste au poids des pages. On peut faire économiser de l'énergie à Google aussi, en fait. Sur un site web, il y a souvent beaucoup de pages qui sont pas vraiment utiles, ni aux internautes, ni du coup à Google. Et du coup, on a vraiment un intérêt à essayer de limiter ce qu'il découvre et ce qu'il va indexer. Quand il s'agit de quelques pages, c'est pas forcément problématique. Mais quand on est sur un site e-commerce, par exemple, qui va avoir des centaines, des milliers de pages qui sont générées avec des paramètres de tri de prix, par exemple. Ou d'ordre d'affichage des produits dans des catégories, bah là, ça va vite complexifier un peu les choses. On va avoir des filtres sur les tailles, les couleurs, et tout ça peut se mixer dans un sens, dans un autre. Ça va te générer plein de combinaisons. Pour remédier à cette problématique, on va avoir deux leviers d'action principaux. La balise no index qui va vraiment aller gérer le côté est-ce que la page est utile. Là, on va simplement dire à Google, tu tombes sur la page, tu vois cette balise, bah, du coup, tu ne la mémorises pas, tu la laisses de côté. Ça, c'est, on va dire, le premier sujet. Et puis après, on va avoir un vrai intérêt, parce que dans son espace de stockage au niveau de son index, bah, il va garder que les pages importantes. Donc là, on nettoie finalement tout ce qui pourrait venir le polluer au niveau du site web. Quoi.
D'accord. Tu parlais de deux leviers, le deuxième c'est quoi exactement?
Je vais laisser Bruno.
Allez Bruno.
Allez. Alors la deuxième partie, c'est plutôt aider Google sur ce qu'il peut explorer ou pas. Pour cela, il faut lui donner des indications, notamment à ses robots d'exploration, et on fait ça via le fichier robot.txt. Où on va indiquer les pages qu'il est inutile d'explorer. Donc, c'est une économie d'énergie pour Google dans son travail d'exploration du web. Et à l'inverse, concernant les pages utiles, celles que l'on souhaite rendre visibles sur les moteurs de recherche, on peut là aussi lui rendre la tâche moins énergivore en mettant à sa disposition la liste de toutes les URL utiles sur notre site. Donc là, il s'agit du fichier sitemap.xml ou des fichiers si on a un très gros site. Et on va s'assurer qu'ils contiennent bien toutes les URL que l'on souhaite voir indexées.
D'accord. Donc ces actions peuvent rendre un site web, vous l'avez dit, moins énergivore en facilitant la tâche à Google. En gros, c'est ça ouais.
Ouais. Exactement, Kevin. Et là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Google, mais il y a un autre acteur dans cet écosystème dont on n'a pas encore parlé et qui a également un impact sur toutes ces émissions de gaz à effet de serre. C'est l'hébergeur de votre site web. Très basiquement, il s'agit des serveurs qui stockent tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du site. Et tous les hébergeurs ne se valent pas. On peut faire un choix d'un hébergeur green.
Hébergeur green, c'est quoi? C'est du greenwashing ou est-ce qu'il y a un vrai truc derrière? Est-ce que c'est, tu m'excuses l'expression, un peu des conneries? Qu'est-ce que c'est exactement?
Déjà, je ne suis pas porte-parole des hébergeurs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les data centers sont assez gourmands en énergie et plus précisément en électricité. Ouais. Donc, un hébergeur peut faire le choix de se fournir une énergie verte.
Après, quand on parle d'énergie verte, pardon, c'est... Enfin, le réseau, il est partagé, donc comment tu mesures, comment ils présentent ça, les hébergeurs, en l'occurrence?
Effectivement, Mathieu, tu fais bien de poser la question, parce que c'était pas très clair pour moi avant de faire ces recherches. Quand un fournisseur d'électricité ou un hébergeur web annonce proposer de l'électricité verte, ça veut simplement dire qu'il garantit qu'une quantité d'électricité d'origine renouvelable, équivalente à la consommation de ses clients, été injectée dans le réseau.
D'accord.
Après, il faut peut-être préciser que ça ne doit pas être le seul critère qui motive le choix d'un hébergeur, évidemment. Typiquement, si votre audience est en France, il faut s'assurer que les serveurs sont également localisés en France. C'est important pour que le temps de réponse des serveurs ne pénalise pas le temps de chargement des pages. Et il faut bien sûr veiller à ce que toutes les spécifications techniques de l'hébergeur répondent à vos besoins en termes de stockage, en termes de bande passante.
Oui, c'est surtout ça en fait qui est on va dire l'important pour le choix d'un hébergeur, en plus du service client. Quand on a des problématiques après à gérer, c'est bien d'avoir un service client qui répond.
Ça fait pas mal de critères à prendre en compte quand même.
Ouais, après, comme on parle de RSE aujourd'hui, l'idée c'était d'amener un peu de matière à réflexion sur le sujet du choix de l'hébergeur, mais effectivement c'est des choses qui sont à prendre en compte en fait, tout simplement.
Bon, là on vient de faire une grosse partie environnement de la RSE. Maintenant, j'aimerais bien quand même qu'on parle aussi du volet social ou sociétal. Est-ce que le SEO, ça joue aussi là-dessus ou pas du tout au final? Quand je dis ça, je veux dire même indirectement, j'imagine que le lien est potentiellement encore moins évident que pour la consommation d'énergie du coup.
Ouais, bah comme tu le pressens, c'est vite moins évident à aborder. Mais comme on a un peu bossé la question, on a quand même des pistes à donner sur le sujet.
Merci Mathieu.
Non, mais je précise, c'est important. Il y a effectivement un lien qui est un peu indirect avec notre métier. Globalement, peut-être pour retracer, le SEO historiquement, c'est trois grands piliers. On a la technique, on va avoir le contenu, on va avoir le linking. Derrière ça, on en a parlé, sur le temps de chargement, c'est lié à la technique par exemple. Sur le contenu, on va avoir le slow content, on en a parlé un peu avant. Pour la partie linking, le but c'est de développer l'autorité d'un nom de domaine, on va dire sa capacité à être jugé comme pertinent aux yeux de Google. Là, on a parlé des relations presse tout à l'heure par exemple, qui a exactement le même objectif. Plus que le moyen qui est un peu différent. Et le truc, c'est que ça, c'était un peu la base de notre expertise jusqu'à il y a quelques années. Là, de plus en plus, et notamment là, en 2024, il y a d'autres éléments qui sont à avoir en tête. Je ne parle pas des écosystèmes dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui sont un peu le game changer, qui viendront un peu après, même si c'est déjà un peu le cas. Là, je vais vraiment parler d'un truc qui est important à avoir en tête, c'est ce qui est à travailler, en fait, pardon. C'est notre capacité à satisfaire les besoins des internautes, à faire en sorte que Google, ils s'en rendent compte aussi. Parce que tu peux faire très bien le boulot pour l'internaute, mais Google, pour rien du tout. Et là, le principe, c'est de parler de ce qui touche à l'expérience utilisateur et notamment pour la partie RSE, à ce qui va être sa dimension inclusive en fait, au niveau de l'audience des internautes qui vont venir chez toi.
Alors, l'UX, on en a déjà un petit peu parlé dans des précédents webcasts, mais du coup, concrètement, comment on peut appliquer ça au niveau RSE?
Alors, tu aimes beaucoup le concret, Kevin ?
Bah, moi, je suis très concret. Même en RSE, je suis très concret.
Alors, je vais essayer là aussi d'illustrer par l'exemple. Si on pense aux personnes en situation de handicap, de déficience visuelle, de daltonisme, il y a des choses à mettre en place sur un site web.
Par exemple ?
Ben, améliorer l'accessibilité, ça fait partie de l'UX, tu le disais. Et ça passe notamment par le fait de travailler la lisibilité des contenus, le contraste des éléments dans la page.
Par exemple, tu as les couleurs de fond quand tu as du texte qui est affiché à l'écran, ou bien la bonne segmentation visuelle des blocs dans une page, que tu puisses te rendre compte facilement que tel élément fait partie de tel ensemble. Tout ça, c'est des choses qui vont vraiment fluidifier l'expérience de l'utilisateur.
Tout à fait. On peut également penser au texte alternatif des images, le fameux attribut alt, et au-delà même, proposer une transcription textuelle et voire audio de chaque média. Là, on parle par exemple des sous-titres pour une vidéo. Un autre point qui a trait à l'UX, c'est l'arborescence d'un site web. Si elle est bien pensée et bien conçue, à travers des menus clairs, par exemple, ça permet par exemple une navigation au clavier pour quelqu'un qui ne peut pas se servir d'une souris.
D'accord, oui, oui. Merci pour cet exemple, parce que je ne pensais pas qu'on aborderait ce genre de sujet aujourd'hui. Et est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on peut ajouter justement sur le sujet ?
Oui, on peut parler de l'intelligence artificielle, je pense.
On n'avait pas beaucoup parlé encore.
En fait, c'est devenu tellement un phénomène de société qu'on peut difficilement esquiver le sujet aujourd'hui. C'est déjà au cœur des usages de plein d'entreprises. On va dire que pour le grand public, c'est peut-être plus les utilisateurs avertis ou les plus aventureux, on va dire ça comme ça. Mais déjà, dans les entreprises, c'est assez grandement déployé. Et ça induit quand même pas mal de changements. On sait que dans nos métiers, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur le rapport des gens à la recherche d'informations. Les différents écosystèmes dont je parlais tout à l'heure, il peut y avoir de la recherche intégrée là-dedans demain. Il y en a déjà en partie, mais ça peut être encore plus développé demain. Et du coup, il y a potentiellement une vraie question éthique derrière l'usage de l'IA dans nos différentes sociétés. Est-ce que je dois utiliser l'IA ou non pour faire mon travail ? Est-ce que j'en ai le droit ? Et quel est l'impact que ça va avoir sur d'autres professions ? Est-ce que ça va nous remplacer ? Tu vois, c'est plein de questions comme ça de société concrètement qui sont induites de par l'usage de l'IA. On parle beaucoup de la génération de contenu, notamment les fameux LLM, dont les principaux acteurs du marché aujourd'hui sont clairement orientés sur je génère du contenu, que ce soit du texte ou de l'image. Donc, quid des métiers qui faisaient ça jusqu'ici ? Quel impact ça va avoir sur eux ? C'est des questions que pour l'heure, en fait, ça reste sans réponse vraiment à notre niveau. Mais c'est des questions de société qu'on va devoir aborder. Et là, d'un point de vue responsabilité sociétale, tu vois, il y a un vrai enjeu.
C'est un enjeu majeur,
de l'aborder.
Ouais, c'est vrai. Si demain, par exemple, on génère tous des visuels avec des outils comme Midjourney, on peut se poser la question de que vont devenir tous ceux qui ont permis d'entraîner ce modèle. On peut penser aux graphistes, aux photographes, globalement, tous les créateurs. Et avec une activité qui risque de baisser, ça risque d'être compliqué de vivre de ce genre d'activité. Et on peut aussi se poser la question du droit. Les modèles ont utilisé pour s'entraîner tout un tas de contenus disponibles sur le web. Et ça s'est fait sans vraiment demander l'avis des créateurs ni sans respecter les droits d'auteur. On peut préciser ici que pour se protéger et pour protéger surtout nos contenus, il existe globalement deux manières de faire ça. On peut le faire via le fichier robot.txt, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On peut indiquer au robot, en fait, en précisant l'user agent, c'est le nom qu'on leur donne, de ne pas crawler certains contenus. Pour Google, par exemple, son nom, c'est Google Extended. Mais dans les faits, rien ne les empêche de le faire quand même. C'est juste une indication qu'on leur donne.
D'accord.
Le second moyen, qui est un petit peu plus drastique, c'est en bloquant l'accès aux pages avec une configuration serveur. Bon, pour ceux qui connaissent, on renvoie un code 403. Et là, c'est radical. Le bot ne pourra pas accéder à votre site.
Ouais, c'est là où tu es le plus... comme dit, c'est radical. il ne verra rien du tout, quoi. Et là, en gros, à ce sujet, il y a un article intéressant qui a encore été mis à jour là, début avril, sur le Medium, où en gros, on a une liste de tous les médias qui ont décidé d'activer cette protection, qui est recommandée en fait, par Google, qui nous dit « Ok, si vous voulez me dire, je ne voulais pas que je m'entraîne avec vos contenus, mentionnez ça ici dans votre robot.txt. » On va citer par exemple sur des différents médias qui ont mis cette protection, Courrier International, 20 Minutes, France Bleu, Mediapart, La Voix du Nord, il y en a vraiment beaucoup.
Et t'as des médias importants, oui, en plus.
Ouais, ouais, ils ont tous un peu flippé quand ils ont vu que les modèles, ils commencent à se servir de leur contenu. Et globalement, il y a un contre-pied à ça qui est Le Monde, qui a signé un partenariat dont ils ont parlé le 13 mars dans un article sur leur site web avec OpenAI, où en gros, ils ont, contre rémunération, en fait, accepté d'aider OpenAI avec leur contenu à se rendre plus pertinent en fait, sur le sujet.
J'aime bien la notion d'aide contre rémunération, du coup.
Ouais, bah, en fait, c'est un peu le, même principe, si tu veux, que les accords qui ont eu lieu entre la presse et Google, enfin Google Actualité par le passé, il est probable que les plus gros acteurs demain ils puissent bénéficier de ce genre de choses avec les différents LLM qui existent. Maintenant, c'est toutes les discussions qu'ils vont avoir, et je crois avoir compris que le monde n'était pas forcément bien vu de la part de tous ceux qui bloquent en ce moment l'accès à leur contenu. C'est des choses qui vont être effectivement à discuter. Là, on est loin de ces discussions, nous, côté WAM, mais c'est clairement... c'est la juste rémunération de leur travail qui est nécessaire, en fait.
Et Bruno, est-ce qu'il y a d'autres impacts potentiellement justement sur cet angle sociétal suite à nos actions ?
Oui, on peut également faire le lien avec le sujet dont on parlait tout à l'heure, la réduction du poids des pages, avec l'idée de les rendre accessibles au plus grand nombre, notamment les personnes ayant une connexion limitée, les petits forfaits, ceux qui ne sont pas encore en 4G ou en 5G. Il y a toutes les populations qui sont moins bien équipées en raison de leur zone géographique, des zones blanches, ou simplement ceux qui sont détenteurs d'appareils anciens. Et quand ils naviguent sur une page, sur des pages qui ont été allégées, en fait, ça, on va leur faciliter la vie, on va leur permettre de les charger plus rapidement.
Ouais, voilà. Dans l'idée, on a quand même des impacts assez intéressants de la part de notre métier vers la RSE. C'est pas forcément un sujet qui est directement spécifique au SEO. Ouais, et tu vois, on s'est quand même un peu creusé pour trouver le lien, mais il y a quand même des choses à faire. Et peut-être ce qui est intéressant d'évoquer à la fin de ce WAMcast, parce que je l'annonce, ce qui est important d'avoir en tête, en fait, c'est d'essayer autant que possible pour nous, les professionnels du SEO, de se mettre au service des entreprises à impact, en fait, pour valoriser leur travail, le mettre en avant dans les pages de résultats Google, essayer autant que possible d'inspirer le plus grand nombre en rendant tout ça visible. Et ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens, je pense, quoi.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos informations. Le sujet n'était pas simple, hein, on peut le dire. C'était pas évident, mais vous avez fourni pas mal d'informations. On voit bien qu'on touche souvent du bout des doigts quelque chose d'assez tentaculaire. Et...
Ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément des sources fiables qui nous donnent des chiffres exploitables parce que ça dépend.
Ça dépend, ça sera le mot de la fin, ça dépend. Et j'imagine aussi que vous, les auditeurs, vous posez aussi ce genre de questions, et on espère quand même que toutes ces réponses pourront vous aider. Merci Bruno.
Merci Kevin, c'était très chouette.
Ouais, t'as commencé par le sujet le plus facile, donc c'est un bon baptême du feu. J'espère que tu reviendras quand même.
Avec plaisir.
Et merci Mathieu. Et toi, merci. Tu as annoncé la fin du WAMcast, mais je ne trahis aucun secret en disant que c'est ton dernier WAMcast.
C'est mon dernier WAMcast.
Et oui, nous n'entendrons plus ta belle voix et toutes tes infos.
Non, faudra m'inviter spécifiquement, effectivement.
En tant qu'intervenant extérieur.
C'est ça.
Et écoute, merci pour ce WAMcast et pour tous les anciens, parce que t'en as fait un petit paquet.
Merci
quand même. Et voilà, j'espère que la suite de tes aventures sera joyeuse et pleine de bonnes choses.
J'espère aussi.
Et pleine d'autres podcasts, qui sait. Bon, sur tous ces remerciements, merci à vous de nous écouter. Je le rappelle, comme à chaque épisode, vous pouvez retrouver ce WAMcast et tous les anciens sur notre site agence-wam.fr, rubrique WAMcast, évidemment. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast. Ça prend quelques toutes petites secondes, donc faites-le, c'est important. Et puis l'agence WAM est évidemment présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, @WAMREF, mais aussi sur Instagram, agence_WAM. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du WAMcast. À bientôt.